London to Argentina. On fire in me, Angelina. I won't give you my shoulder to cry. They must be sweet.
Avec vous, Henri Francisque, 16h à Dakar, 17h à Kinshasa, bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Pandémie de coronavirus, l'Afrique a officiellement recensé près de 307 000 cas de contamination et un total d'un peu plus de 8 000 décès depuis l'apparition du COVID-19 sur le continent africain, selon les chiffres publiés par le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. L'Afrique du Sud est le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par le COVID-19 et le président sud-africain Cyril Ramaphosa a averti ses compatriotes ce lundi qu'ils doivent s'attendre à des moments difficiles dans les mois à venir. L'Afrique du Sud était déjà en récession avant même l'arrivée du nouveau coronavirus sur place et le taux de chômage approchait des 30% de la population active, situation qui s'est aggravée après l'imposition le 27 mars de restrictions anti-COVID-19 très sévères qui ont ralenti encore plus les activités économiques. L'allègement progressif de ces mesures depuis le mois dernier a permis un début de relance de l'économie, mais l'amélioration des conditions de vie des Sud-Africains prendra du temps, a souligné le président Cyril Ramaphosa. Le chef de l'État a exhorté le patronat à tenir compte des difficultés auxquelles les Sud-Africains font face, alors qu'un certain nombre d'entreprises annoncent des plans de licenciement. Côté gouvernemental, le ministre des Finances, Tito Mboweni, doit présenter mercredi un budget remanié incluant un nouveau plan de relance renforcé de l'économie et un ensemble de mesures d'aide sociale de montant de plus de 30 milliards de dollars. Pandémie de coronavirus au Burundi, le club de football Le Messager de Ngozi, ville du nord du pays, a décroché ce week-end son deuxième titre de champion du Burundi, dans un pays qui s'est démarqué en étant le seul du continent africain à poursuivre son championnat national de foot malgré la progression du COVID-19. La victoire finale a été scellée samedi grâce à la défaite infligée par Le Messager à l'Interstar qui a encaissé 3 buts sans marquer un seul. Grâce à cette deuxième couronne à l'échelle nationale, Le Messager de Ngozi est qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions de la CAF, la Confédération africaine de foot, la plus prestigieuse compétition de clubs sur le continent africain. Il n'y avait pas de raison d'interrompre le championnat alors que d'autres activités continuaient normalement au Burundi, a déclaré à la presse le président de la Fédération burundaise de football, Ndikuriyo Reverien. Vous écoutez VOA Afrique, votre fenêtre sur le monde. Politique en RDC, la désignation du nouveau président de la CENI, la Commission nationale électorale indépendante, suscite de nouvelles tensions dans le pays. L'heure du départ a sonné pour Corneille Nanga, qui a supervisé les opérations et a conduit à la victoire du candidat d'opposition Félix Tshisekedi à la présidentielle du 30 décembre 2018. Un résultat contesté par l'Église catholique et une partie de l'opposition pour qui le vrai gagnant était un autre opposant, Martin Fayoulou. Le président Félix Tshisekedi gouverne maintenant le pays en coalition avec les forces de son prédécesseur Joseph Kabila. Selon la loi, le choix du successeur de Corneille Nanga à la tête de la CENI est entre les mains de la société civile, dont les confessions religieuses. La CENCO, la Conférence épiscopale catholique et l'Église du Christ au Congo, principale fédération protestante du pays, sont contre la candidature à la présidence de la CENI de l'actuel secrétaire exécutif de la commission électorale, Richard Malonda. Selon le porte-parole de la CENCO, l'abbé Donatien Cholet, M. Malonda était la cheville ouvrière des élections de 2018 en RDC et sa nomination à la tête de la CENI représenterait la continuité de l'ancienne CENI. La prochaine élection présidentielle en RDC est prévue en 2023 et le mandat de l'actuelle CENI a expiré depuis juin 2019. Et pour terminer, la lutte contre les djihadistes en Côte d'Ivoire, le chef du commando djihadiste qui a mené récemment une attaque meurtrière contre les forces armées ivoiriennes dans le nord du pays à la frontière avec le Burkina Faso a été capturé. C'est ce qu'a affirmé ce lundi le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko. L'attaque de Kafolo, la première action djihadisme entrée en Côte d'Ivoire depuis l'attentat de Grand Bassam qui a fait 19 morts en 2016, a été menée par les combattants du GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance du Sahel affiliée à Al-Qaïda.
La Minute Éco, Eric Manirakitza.
Deux entreprises britanniques de premier plan, la chaîne de pub Green King et le marché de l'assurance Lloyd's of London, vont verser des donations à des organismes de soutien aux minorités ethniques, une forme de compensation pour leur implication passée dans le commerce des esclaves. La Fédération américaine du voyage a pressé le Congrès de venir en aide à ce secteur durement frappé par la pandémie de Covid-19 qui pourvoyait un emploi sur 10 aux États-Unis avant la crise. Selon une étude récente, les dépenses de voyage domestique vont diminuer de 40% cette année, tombant à 583 milliards de dollars. Les dépenses de voyage émanant des visiteurs étrangers vont chuter de 75%, passant de 155 milliards en 2019 à 39 milliards. Dans ce secteur, le taux de chômage a grimpé à 51% en mai et 8,1 millions d'emplois ont été perdus rien que dans l'industrie du voyage. Avant la pandémie, l'industrie du voyage contribuait à hauteur de 2 600 milliards de dollars à l'économie américaine, soutenant 15,8 millions d'emplois américains. Le secteur a permis de dégager un excédent commercial de 69 milliards de dollars l'an dernier.
La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur VOA Afrique.
Oui.